Pour ce 7e épisode, nous allons voir 10 biais qui peuvent affecter les investisseurs. Il s'agit selon moi du podcast le plus important que vous pourriez écouter, puisque ces biais vous font faire plusieurs erreurs non seulement dans vos investissements, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Le prix du titre vient de passer de 100$ à 70$. C'est vraiment une aubaine. En plus, le titre était à 100$. C'est sûr que ça va remonter. J'ai vraiment l'impression que c'est une bonne compagnie. Je vais l'acheter. Zut, j'ai perdu de l'argent. Mais c'est pas ma faute, c'était à cause du marché baissier. Si j'achète tout de suite, je vais pouvoir vendre quand ça va monter un peu. J'ai le contrôle de la situation. Mes performances l'indiquent, je suis meilleur que la moyenne. Le titre il baisse trop, si ça me fait peur, je veux pas perdre plus. Je vends. Un de mes amis m'a parlé de cette entreprise-là. Je vais me fier à lui, j'achète. Ça fait longtemps que l'entreprise existe et qu'elle est en bourse. Ça doit être parce que c'est une bonne entreprise. J'achète. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans l'un de ces propos? Si oui, vous êtes peut-être atteint d'un biais de l'investisseur. Je vous invite à écouter le reste de l'émission afin d'apprendre sur les différents biais et de savoir comment les régler. Commençons avec un premier biais qui est l'ancrage. L'ancrage survient lorsqu'on aperçoit ou conçoit quelque chose pour la première fois et qu'il est difficile de se séparer de cette première impression. Donc ça va influencer sur nos décisions futures. C'est une technique qui va souvent être utilisée par les vendeurs. Par exemple, à un magasin, vous voyez un pantalon qui est habituellement à 80$, va être en rabais à 40$. Donc, vous pensez que vous économisez 40$, mais en fait, le commerçant a seulement mis un rabais pour attirer votre attention et lui, il se fait quand même une marge de profit. Un autre exemple est la vente d'une voiture. Si vous voulez vendre votre voiture 5000$, ben vous feriez mieux d'afficher un prix de 7000$. Comme ça met un prix d'ancrage. Donc, si vous négociez avec l'acheteur un prix de 6000$, donc vous allez faire un surplus de 1000$, puis l'acheteur va croire qu'il est un bon négociateur parce qu'il a réussi à réduire 1000$ du prix d'ancrage. Donc ici, c'est les deux parties qui vont être satisfaites, mais vous avez quand même instauré un prix d'ancrage afin de faire croire à l'acheteur qu'il va profiter d'un bon rabais. Et ça, en fait, c'est un gros risque en bourse et j'en entends souvent parler. En fait, par exemple, si un titre était à 100$, puis deux jours plus tard, il descend à 70$, ben là, le monde va voir ça comme une aubaine. Je vais payer 30$ moins cher pour le titre, donc j'achète. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut vraiment évaluer la valeur intrinsèque de l'entreprise, parce que si vous évaluez que l'entreprise est seulement, elle vaut seulement 50$ par action, ben vous allez quand même payer 20$ trop cher pour acheter le titre. Alors à ce moment-là, vous n'aurez pas de marge de sécurité et c'est là le gros risque en fait, parce que si l'entreprise va mal, vous aurez payé vraiment trop cher pour votre titre. En deuxième, il vient le biais de confirmation. Ça, c'est quand on recherche et on prend en considération seulement les informations qui confirment nos croyances, nos hypothèses, et à ignorer ou sous-estimer l'importance de celles qui les contredisent. Donc, c'est quand on croit tellement à quelque chose qu'on veut juste regarder des informations qui confirment cette croyance-là. Puis ça, en fait, ça peut nous amener à faire plusieurs erreurs parce qu'on peut avoir une mauvaise opinion. Puis c'est correct de faire des erreurs en autant qu'on apprend de ces erreurs-là. Puis pour éviter ce biais-là, c'est important de bien réviser les informations qu'on a de disponibles, de regarder les pour et les contre d'une telle entreprise. Donc, il ne faut pas juste assumer que cette entreprise-là est bonne parce que je crois qu'elle est bonne. Il faut vraiment regarder diverses opinions pour nous donner d'autres idées à propos de cette entreprise-là. Donc, il faut écouter plusieurs sources, regarder plusieurs données, plusieurs articles sur l'entreprise pour avoir des opinions divergentes. En troisième, il y a le biais d'information. Le biais d'information est la tendance humaine à écouter différentes sources d'informations sans bien les analyser. Donc, par exemple, on peut écouter pendant des heures la chaîne de télévision CNBC et on va seulement avoir les mêmes idées qu'eux. C'est important de faire ses propres idées en cherchant différentes sources et de ne pas se faire influencer par les médias. Par exemple, si vous voyez des articles de CNBC, quand le marché va mal, vous allez voir des traders en désespoir, des visages tristes. Puis ça, en fait, ça affecte nos pensées, puis ça nous donne une attitude plus pessimiste envers le marché, puis ça peut nous faire plus peur, ça peut nous éviter des occasions d'investissement. Donc, il faut vraiment apprendre à filtrer les informations pour prendre celles qui sont pertinentes, puis pour nous permettre de commettre moins d'erreurs. Un truc que vous pouvez faire si vous écoutez CNBC, c'est de laisser le poste en mute, donc qu'il n'y ait aucun son. En fait, Warren Buffett utilise cette méthode-là, puis aussi mon mentor en gestion de portefeuille. Donc, s'il y a une nouvelle intéressante, une entrevue intéressante, des données sur une entreprise, sur le marché qui vous intéresse, ben là, vous pouvez rallumer le son, écouter ça, puis le rééteindre. Comme ça, vous n'êtes pas constamment attiré par les différents propos de l'émission. Puis vous pouvez passer plus de temps à bien analyser les compagnies. En quatrième, il y a le biais d'autocomplaisance. Celui-là, en fait, c'est lorsqu'on prend crédit quand on réussit et qu'on attribue les échecs à des sources externes. Par exemple, un étudiant va dire qu'il a beaucoup étudié quand il a bien réussi un examen. Sinon, s'il y a eu une mauvaise note, en fait, ça va être à cause du prof qui est trop sévère. En bourse, c'est la même chose. Si nos rendements montent, c'est qu'on a fait des bons choix, on a fait des bonnes analyses, on a été bon. Mais si nos rendements, on perd de l'argent, nos rendements sont négatifs, ben c'est qu'on n'a pas eu de chance à cause du marché, on a rentré dans un marché baissier. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Si on a des échecs, il faut les analyser, les comprendre, pourquoi on a fait ça, puis plus les refaire dans le futur. C'est pas grave de faire des erreurs. Quand on parle à du monde, c'est correct de dire j'investis dans cette entreprise-là, mais j'ai perdu de l'argent à cause qui est arrivé ça, ça, ça. Puis vous énumérez qu'est-ce que vous avez appris. Puis c'est ça qui est intéressant. Faut pas dire ouais, j'ai acheté cette entreprise-là, ça a pas marché à cause du marché, j'ai pas eu le bon moment. Ça va être beaucoup plus intéressant si vous dites à cause de quoi vous avez perdu votre argent. Et comme ça va même permettre à l'autre personne de comprendre et d'apprendre elle aussi à ne pas faire cette erreur-là. Pour le cinquième biais, c'est très important de le comprendre puisque c'est vraiment un biais très dangereux. C'est le biais de confiance excessive. Ça, c'est quand on a une illusion de contrôle causée par une croyance d'être meilleur qu'on l'est vraiment. Puis c'est quand même en lien avec le dernier biais parce qu'on va vraiment mettre les pertes sur des causes externes. Puis en fait, c'est dangereux de toujours croire d'avoir raison. Faut toujours, en investissement, d'avoir un certain doute, de regarder d'autres analyses, d'autres opinions qui divergent de la nôtre pour bien suivre l'entreprise. Puis en fait, il y a quatre types de biais de confiance. En premier, il y a le surclassement. Donc, c'est penser que ses performances sont meilleures que la moyenne. Alors, on est vraiment bon. Le deuxième type, c'est l'illusion de contrôle. C'est penser qu'on sait ce qui va arriver, qu'on contrôle la situation, qu'on connaît qu'est-ce qui va arriver au marché. Ça, c'est impossible à savoir. En troisième, il y a l'optimisme du bon moment. C'est qu'on pense qu'on fera de l'argent rapidement grâce au timing. Donc, vous vous dites, si j'achète tout de suite, je vais faire de l'argent rapidement. Ça, c'est, on peut pas faire d'argent rapidement avec la bourse. Si vous en faites rapidement, c'est la chance. C'est vraiment de la chance. Sinon, le marché, il faut vraiment voir ça à long terme. Puis le quatrième type, c'est l'effet de désirabilité. Donc, c'est de penser à une situation finale probable. C'est-à-dire qu'on s'imagine un scénario idéal que le titre ferait, donc par exemple qui monte de 30%, puis on veut ce 30%-là, puis on va juste penser à ça. Puis même si l'entreprise se met à aller moins bien, ben on va juste focusser sur le 30% initial, puis on va garder le titre jusqu'à temps qui atteint le 30%, mais peut-être qu'il l'atteindra jamais en fait. Donc pour régler ce biais de confiance excessive, c'est vraiment important de pas juste se fier à soi-même. Même si c'est important de faire sa propre opinion face aux autres opinions, faut quand même lire les autres idées pour se donner une idée générale de l'entreprise. En sixième, il y a le biais d'aversion aux pertes. Ça, c'est lorsqu'on préfère d'éviter les pertes au lieu d'obtenir des gains. En fait, c'est quelque chose qui se passe dans notre cerveau, c'est dans le cortex préfrontal qui s'appelle le centre de récompense. Quand on a un gain, il y a une activation de ce centre de récompense-là, puis ça nous fait sentir super bien. C'est comme un peu manger du chocolat, ça active ce centre de récompense-là, puis ça nous rend heureux. Par contre, quand on a une perte dans un titre, ça désactive ce centre de récompense-là, puis la réaction de notre corps est plus grande que si on aurait un gain. Donc, en fait, c'est deux fois plus sensible aux pertes qu'aux gains. Fait que ça nous rend deux fois plus tristes qu'heureux. Donc, ça, c'est pour ça que beaucoup ont peur des pertes, puis vont préférer vendre trop tôt, vendre pendant que le titre est en dessous de la valeur qu'ils l'ont acheté. Puis à ce moment-là, vous allez faire des pertes. Mais pour éviter ce biais-là, c'est important de s'assurer de bien analyser l'entreprise, bien l'évaluer. Comme ça, on va bien connaître la valeur intrinsèque et on va s'assurer que c'est une bonne entreprise. Donc, même si le prix diminue à cause de spéculation, à cause du court terme, bien, à long terme, on va être sûr ou presque sûr d'atteindre le prix qu'on avait fixé grâce à nos analyses. Donc ça va nous éviter de faire des erreurs comme en vendant trop tôt un titre et de réaliser des pertes ainsi. En septième, il y a le biais de disponibilité. Ça, en fait, c'est une information qui nous vient en tête rapidement, une information que l'on juge selon si on en est familier ou si ça fait du sens selon nous, selon nos comment on est. Puis beaucoup vont faire des choix basés sur des informations accessibles rapidement, comme dans des publicités, comme dans des suggestions d'amis ou de la famille, sans faire de recherche approfondie. Puis, en fait, c'est pour ça, je peux vous donner un exemple, que le titre Bombardier étant populaire au Québec. D'ailleurs, j'ai fait un podcast là-dessus, vous pouvez aller l'écouter. C'est un titre qui est entendu souvent. Souvent, les Québécois, quand on parle d'investissement, le premier titre qui nous vient en tête, c'est Bombardier. Mais pourtant, c'est pas nécessairement un super bon titre, mais ça va être le premier choix de plusieurs personnes. Donc, les investisseurs vont souvent choisir des titres selon leur personnalité ou selon qu'est-ce qu'ils entendent autour d'eux. Puis, ils peuvent, à cause de ça, ignorer des bons investissements car ils n'y croient pas. Donc, ils ne croient pas aux bonnes compagnies parce qu'ils sont habitués aux compagnies plus traditionnelles. Donc, ça, c'est une grosse erreur. Il faut vraiment s'adapter au marché. Ce n'est pas le marché qui va s'adapter à vous. Donc, il faut vraiment suivre le marché, suivre les nouvelles entreprises qui innovent. Puis c'est vraiment avec eux que vous allez avoir du succès en fait. Donc pour éviter ce biais de disponibilité-là, il faut vraiment penser à long terme, de bien faire vos recherches, de bien connaître vos entreprises, de ne pas toujours écouter les personnes autour de vous. C'est sûr que vous pouvez avoir un mentor comme moi que vous savez qui est bon, qui connaît bien ses principes. Donc, celui-là, vous pourrez vous fier plus dessus. Mais sinon, fiez-vous pas juste à vos amis. Faites-vous votre propre idée. Cherchez sur Internet des articles, différentes opinions pour avoir plusieurs points de vue sur l'entreprise. Aussi, en étant dans ce sujet-là, vous ne devriez pas avoir peur d'être le mouton noir de votre entourage. Donc, si tout le monde que vous connaissez aime beaucoup un certain titre, mais que vous, vous ne croyez pas à ce titre-là, puis que vous voyez que ça ne va pas bien, mais achetez-le pas, allez dans une autre direction, achetez une entreprise que peut-être même eux n'achèteraient jamais, mais que vous savez qu'il va aller bien, puis c'est peut-être, vous allez en fait sûrement faire plus de rendement que eux. En huitième, on a le biais de récence. Donc ça, c'est quand on juge le futur selon ce qui se passe maintenant. On va mettre de l'emphase sur les événements récents, puis on va écarter ceux du passé. Par exemple, si on est dans un marché haussier, bon, on va être plus enclin à prendre plus de risques, on se dit que tout va bien, on voit un futur positif. Par contre, si le marché est baissier, on va avoir peur, on va voir un futur plus négatif, puis ça, c'est vraiment des pensées de court terme. Quand on regarde le passé, tout finit par remonter ou descendre selon le type de marché qu'on est. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se laisser influencer par le type de marché présentement, mais il faut vraiment voir à long terme. Puis, il faut surtout éviter les tendances. Donc, vous pouvez moins écouter les médias qui emphasent beaucoup sur le présent, puis passer plus votre temps à analyser les entreprises. Parce que si c'est une bonne entreprise, pourquoi elle ne survivrait pas dans le temps? Si c'est vraiment une bonne entreprise, oui, son prix des actions peut baisser durant un marché baissier, c'est tout à fait normal. mais ça ne va pas changer le fondamental de l'entreprise en tant que telle. Donc, c'est pour ça qu'en s'assurant qu'on achète une bonne entreprise, ben, on a beaucoup moins peur des spéculations, puis en le gardant à long terme, on est sûr de faire un rendement si vraiment c'est une bonne entreprise. Le neuvième biais est le biais du survivant. En fait, ça, c'est quand on va regarder seulement les compagnies cotées sur le marché, sans analyser celles qui sont plus là ou sans analyser la compétition qui a moins bien réussi que l'entreprise que vous regardez. Donc ça, en fait, le biais du survivant provient de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, ils devaient renforcer les avions de guerre. Puis, ils ont juste regardé les avions qui revenaient dans l'aéroport. Ils voyaient qu'il y avait des trous de balles sur les ailes. Donc, ils ont décidé de renforcer les ailes. Mais en fait, c'est pas ça le problème, c'est les avions qui s'écrasaient. Ils s'écrasaient à cause qu'ils recevaient des balles dans le cockpit, puis dans le réservoir d'essence. Donc, ils auraient dû renforcer ces parties-là, mais ils ont juste renforcé les ailes. Donc, ça n'a pas arrangé le problème. Donc, c'est important en bourse de regarder les entreprises qui ont subi un échec. Par exemple, Sears, pourquoi elle a eu un échec? Vous pouvez analyser ça, puis voir comment, par exemple, Amazon a pris le dessus. C'est quoi les avantages d'Amazon par rapport à Sears? Puis, comme ça, vous allez mieux comprendre pourquoi l'entreprise a réussi et pour voir si c'est un bon choix. Et finalement, il y a le biais de disposition. Donc ça, c'est le fait de vendre les gagnants et de garder les perdants pour éviter les pertes. Donc, puisqu'on veut garder les gains, par exemple, vous faites du rendement sur un titre, vous voulez garder les gains, donc vous vendez. Mais en fait, si c'était une bonne entreprise, vous feriez mieux de garder le plus longtemps possible votre entreprise pour faire beaucoup plus de gains. Puis c'est ça, en fait, qui est logique. Parce que, en fait, là, c'est le contraire qui survient chez plusieurs personnes. Ils vont garder des titres qui vont moins bien. Donc, le titre descend. Ils se disent, ah, mais ça va remonter. Je veux pas faire des pertes. Donc, ils gardent. Puis finalement, le titre fait juste baisser. L'entreprise va de plus en plus mal. Ben là, vous allez être obligé de perdre encore plus d'argent en vendant. Donc, c'est vraiment important de garder les gagnants, de pas tout de suite prendre les gains, c'est vraiment de garder le plus longtemps possible. Donc, c'est pas grave de faire des erreurs, mais l'important, c'est de s'en rendre compte rapidement et de vendre le titre, même si vous faites une perte, parce que cette perte-là pourrait être pire. Puis aussi, c'est important d'apprendre, comme j'ai dit plus tôt, mais vraiment, il faut s'en rendre compte rapidement, puis garder ceux qui vont bien, garder les bonnes entreprises longtemps, comme ça, vous allez faire des très bons rendements. Donc, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, c'est un épisode très important de, en fait, bien comprendre les biais qui pourraient affecter vos investissements. Puis, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Sinon, vous pouvez aussi laisser un message sur la page web du podcast. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.